Nous sommes dans les quelques semaines qui précèdent la Pâque, la Passion de Jésus. Et permettez-moi de vous rappeler que la Pâque est une fête agricole qui consiste pour un berger à orienter le bétail là où les herbes sont luxuriantes. On fait des packages par morceaux et lorsque l'herbe est sèche d'un côté, on ouvre la perspective vers des herbes vertes pour nourrir les brebis. Et la fête de la Pâque correspond à cette période-là. Et donc, on s'aperçoit que dans la vie spirituelle avec Dieu, tout est question de séparation. On quitte un endroit pour aller vers un autre, où on se sépare de quelque chose. Ainsi, le principe de séparer les espaces a été toujours présent dans l'esprit de la parole de Dieu. Séparer la lumière des ténèbres, séparer le ciel de la terre, la vie de la mort, séparer le monde d'avant, celui dans lequel nous sommes, du monde à venir, celui que Jésus viendra instaurer lors de son nouvel avènement. Séparer ce qui est éphémère de ce qui est éternel. Et ce principe du Christ, car c'est un principe divin, peut se comprendre dans la parabole dite la parabole du froment et de l'ivraie, dont la leçon qui en ressort est simple. Sortir le bénéfique du nuisible, sortir le bien du mal. Une fois ceci dit, apparaît une autre réalité. Une réalité, celle de la nécessité de trier, de faire un choix, d'extraire ce qui est bon de ce qui est mauvais, de briser tout attelage disparaître pour que le bien prospère. Ainsi s'est employé, et il s'emploie encore notre Père, à faire sortir de ce monde souillé un royaume meilleur, éternel, pour un peuple que vous et moi sommes devenus, c'est-à-dire peuple de sacrificateurs. Voilà la trame de ce message de ce matin qui vise à redonner de la force à celui qui est fatigué, qui permet de fixer le regard sur le Christ, de ceux dont le regard se promène à gauche, à droite, pour chercher du secours humain, alors que tout est dans le Seigneur. On va lire 3 textes et puis nous allons prier. Le premier s'extrait dans le livre de Jérémie. Le deuxième, c'est dans le livre de Corinthiens, et le troisième, c'est dans Apocalypse. Je lis donc le premier. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. » Dieu peut-il se mettre en colère? Ah oui. Ah oui. Je dis que Dieu se venge, certains disent que non. Comment Dieu peut se venger? Ah oui. Lisez bien votre Bible. Le deuxième texte, c'est pourquoi les Corinthiens étaient ceux qui avaient reçu tous les dons de la part de Dieu. On pourrait dire que ça, c'est l'Église charismatique. Aucun don ne leur manque. Mais cependant, c'est à eux que l'apôtre Paul est en train de s'adresser. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, éloignez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur, et moi je vous accueillerai. Je serai un père pour vous, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur souverain. Et le dernier passage. C'est un ange qui parle. Il crie avec force. Elle est tombée. Elle est tombée, la grande Babylone. Maintenant, c'est un lieu habité par des démons, un refuge pour toutes sortes d'esprits impurs, un refuge pour toutes sortes d'oiseaux et d'animaux impurs et répugnants. Tous les peuples ont bu le vin de sa furieuse débauche. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de son luxe insolent. Puis j'attendis une autre voix qui venait des cieux et disait « Sortez du milieu d'elle, vous, mon peuple, afin de ne pas être complice de ses péchés et de ne pas subir avec elle les fléaux qui vont la frapper, car ses péchés se sont entassés jusqu'au ciel et Dieu n'a pas oublié ses crimes. Je vous invite à la prière. Père, par ta parole qui est esprit et vie, tu nous as rejoints dans notre humanité pour faire de nous des enfants de Dieu. Et c'est par cette parole que tu nous appelles à vivre. Tu nous recommandes que cette parole habite abondamment au-dedans de nous. Alors Dieu, ouvre nos oreilles, afin que nous entendions comme entendent les disciples. Que nos yeux intérieurs s'ouvrent sur les réalités des choses de l'esprit et que nos cœurs soient réceptifs. Enseigne-nous le chemin des saints, dans le nom de Jésus. Amen. Babylone. On l'appelle Babel aussi, et qui se situe en Chaldée. Si vous regardez les cartes de la géographie, vous le verrez. Ce message n'est pas nouveau, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ce message va se décliner dans un contexte où vous allez voir que certaines choses vont apparaître et qui correspondraient particulièrement à la vie de beaucoup au milieu de nous. Babylone est le commencement du royaume de Nimrod, qui est considéré comme étant un des rois les plus méchants. Ce royaume commence à être puissant sur la terre après le déluge. C'était l'endroit où vivaient Abraham et les siens avant l'appel qu'il a reçu de la part de Dieu pour aller vers une terre inconnue. Babylone présente beaucoup de caractéristiques. À côté de la Syrie, la Perse, qui étaient des puissances de l'époque qui avaient soumis Israël en esclavage, il y avait aussi l'Égypte. Ils sont comme les symboles des pays de souffrance, des pays d'esclavage. Mais la Bible accorde une place de choix à Babylone, dont les caractéristiques réunissent toutes les autres caractéristiques. Il est également désigné par le nom Mésopotamie. Elle fait figure d'une grande puissance orientale qui a pesé sur le destin d'Israël tout le long de son histoire. Elle ouvre les temps des nations par rapport au peuple juif que Dieu avait choisi pour apporter le salut. Le diable a posé un problème énorme à Dieu, mais il fallait que le Seigneur résolve le problème en prenant un bout. Et c'est pour ça qu'il a choisi Abraham. Et toutes les autres nations qui ne sont pas des nations juives sont considérées comme étant des nations païennes, les goïmes. Mais si Babylone était un endroit géographique sur terre, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de Babylone, qui est un système qui veut égaler la puissance de Dieu. Elle se caractérise par son orgueil, par sa rébellion vis-à-vis de Dieu. Et je m'en vais vous décliner quelques-unes de ses caractéristiques pour nous permettre de bien nous ajuster. Babylone, l'esprit de Babylone, se caractérise par un projet d'édification d'un monde où l'Éternel Dieu est exclu. Une affirmation orgueilleuse de la puissance humaine qui se dresse devant Dieu. Parce que leur but, Babylone, construisons les maisons, unissons-nous pour atteindre le ciel. C'est la volonté humaine qui se dresse ambitieusement contre celle de Dieu. Elle veut contrecarrer Dieu dans son plan salvateur. Et pour atteindre son objectif, les hommes qui vivent dans cet endroit vont former une association qui ne tient pas compte de la parole de Dieu ni de sa sagesse pour mieux s'opposer à lui. Voilà ce qu'ils se disent. Au travail, pour bâtir une ville, avec une tour dont le sommet touche les cieux. Ainsi nous rendrons notre nom célèbre et nous éviterons d'être dispersés sur la surface de la terre. Peine perdue. Parce que Dieu va descendre dans la triunité pour leur imposer un châtiment, ce qui va provoquer confusion et dispersion forcée. Lorsque Dieu n'est pas dans un espace, cet espace est supplanté par une autre présence qui prend le nom de l'idolâtrie, des idoles. Quand Dieu est écarté, Babylone s'est vautrée dans l'idolâtrie. Et elle en est devenue le centre originel de tout ce qui est science et spiritisme, ce qui est du domaine de l'esprit. Car le monde spirituel est régi par deux puissances. La puissance saine qui est issue de Dieu et une autre puissance qui est une puissance diabolique et dont la réplique est identique. Mais ce n'est que par le discernement qu'on peut savoir quelle est l'origine d'une force ou pas. Moïse en Égypte, quand il voulait faire le miracle avec les serpents pour infléchir le cœur de Pharaon, Pharaon a fait appel à deux de ses magiciens qui ont répliqué la même chose. Sauf que quand on conduit bien la lecture, on se réjouit parce que les serpents de Aaron ont avalé les serpents de la partie opposée. J'arrête là. Mais en ce jour de grâce qui court, et ce jour de grâce va arriver à son terme, je vous le rappelle, ce jour de grâce va se terminer. Les gens vivent, c'est comme si le monde dans lequel nous coulons continuerait à couler indéfiniment. Non, le jour de grâce va s'arrêter. Et sous peu, l'ennemi, l'esprit de Babylone le sachant, il va provoquer des multiples obstacles pour le chrétien. Et nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure dans la suite. L'esprit de Babylone va constituer un obstacle pour que l'Église de Christ ne se constitue pas. Et si elle parvient à se constituer physiquement par le nombre d'individus, le fondement sur lequel cette Église est basée n'est pas la vérité, n'est pas l'amour du Christ. On donne l'apparence de la piété, mais on rejette ce qui en fait la force. Il s'ensuit une compromission. L'esprit de l'Antichrist, dont le but avoué est de détruire l'Église. Et cette stratégie commence parfois à l'intérieur de l'Église. Même si en lisant Apocalypse chapitre 13, qui fait mention de deux bêtes, une bête qui monte de la mer et l'autre qui vient de la terre. C'est quoi les symboliques de ces deux bêtes? Les bêtes qui montent de la mer, ce sont, la mer c'est le monde. C'est les puissances profanes qui agissent dans le monde à l'heure actuelle. Sauf qu'il y a une autre bête qui monte de la terre. Si le sel perd sa saveur, il est bon pour être foulé aux pieds, à terre. Et l'image de la terre, dans le second cas, c'est l'image de l'Église qui aurait perdu sa saveur, qui est une puissance, mais une puissance qui ne s'appuie pas sur la force de Dieu. Donc c'est une puissance religieuse. Et l'autre, c'est une puissance politique. Voilà les deux enclumes et le marteau qui a écrasé Jésus. Puissance politique et puissance religieuse. Et nous le voyons. Vous avez les yeux pour voir le monde dans lequel nous sommes. Ces deux forces sont en train de se combiner pour se rapprocher, pour écraser. Une de ces tactiques stratégiques est de mener l'Église de Christ à l'abandon de la foi, ce qu'on appelle l'apostasie, se détourner de la vraie foi, abandonner la vraie foi. C'est pour ça que Dieu nous demande de nous en sortir. Mais en sortir comment? J'en parlerai tout à l'heure. Un autre courant qui caractérise l'esprit de Babylone, je l'ai déjà mentionné, c'est le spiritisme, mais surtout l'esprit des morts, l'invocation de l'esprit de mort. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne cherchez point appui chez eux, de peur de vous souiller. Je suis l'Éternel, vos dieux. Vous savez, les invocateurs de l'esprit des morts étaient particulièrement nombreux à Babylone. Et même les juifs qui avaient été déportés se sont laissés aller à ce genre de pratiques. Et pourtant, Dieu les mettait en garde. Quand les journaux se vendent, et quand il n'y a pas une page qui est destinée à l'horoscope ou à la divination ou à un tel, ces journaux ne se vendent pas beaucoup. Et même les chrétiens, au volant de leur voiture, ils essaient de capter les chaînes de radio qui évoquent les signes de zodiaque et quelles en soient les forces qui sont associées. Vous êtes en train de vous brancher sur une mauvaise onde. Et les gens raffolent en cette période. Cet esprit est à l'œuvre sur terre pour dominer, affaiblir l'Église de Christ par la séduction qui détourne notre cœur et par la tentation et les épreuves face auxquelles plusieurs solutions se présentent devant nous et nous n'avons pas suffisamment la sagesse de savoir quelle est la solution qui vient de la part de Dieu. Mais parce que nous avons peur de souffrir, nous fonçons sur la solution la plus facile et nous avalons l'appât et la meçon. Cet esprit va élaborer un système religieux truffé de contre-vérités dont il faut être vigilant pour en repérer les pièges. On prône l'union des forces à grandes confédérations rivales, mais en réalité tous dressés contre le Christ. Les peuples groupés se croiront invincibles et ils diront « paix et sécurité » et voici une subite destruction viendra sur eux comme les douleurs sur celle qui est enceinte. Et ce monde n'échappera pas. Dieu qu'il méprise, Jésus et son Église qui sont en train de maltraiter, le jour viendra où le Seigneur interviendra. Ça, ce qui concerne Babylone. Sion. Quelle est la symbolique de Sion? Sion signifie lumière. Le mont Sion est l'une des collines de Jérusalem située au sud-ouest de la ville. Le nom de Sion est souvent pris comme symbole de Jérusalem, certes, mais Sion désigne également le sanctuaire de Dieu. Le psalmiste dira « Souviens-toi de ce mont Sion où tu fixas ta résidence. » On l'appelle aussi « Cité de David ». Enseignement, le mont Moria, où Abraham, par obéissance, a offert Isaac. Je dis offert, parce que dans son cœur, Isaac était déjà mort. Ce nom, dans le langage des prophètes, désigne fréquemment la ville sainte, tout entière. Elle est la manifestation ultime de la glorification que Jésus est venu nous apporter. Il est écrit, « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, le juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Ça, ça nécessite un développement, mais je ne le fais pas aujourd'hui. Voilà pourquoi cette prédication va se décliner en 3 ou 4 fois. L'Esprit de Dieu est indispensable à notre vie pour que chacun d'entre nous parvienne à la maturité. Comme nous l'avons fait pour Babylone, si Sion représente un endroit physique, en quoi consiste l'Esprit de Sion? L'Esprit de Sion se caractérise par la crainte de l'Éternel, par la présence de Dieu qui est lumière. Il se caractérise par l'amour, et je dis l'amour vrai, l'amour de Dieu. Parce qu'il y a 4 niveaux à l'amour. L'amour estorgé, c'est l'amour qui relie un enfant à ses parents. C'est un amour qui est fort, mais un amour qui reste pur. Et il y a des gens, parfois l'esprit perverti, ils vont se servir de cet amour pour le pervertir au sens du mot. En tant que pasteur, je vous parle, je sais de quoi je parle. Il y a l'amour philéo qui unit 2 amis. Comme l'amour qui unissait David à son ami Jonathan, que des esprits pervertis sont en train de gloser dessus pour élaborer ce qu'ils ont envie d'entendre ou ce qu'ils ont envie de faire. Il faut le justifier. Et l'autre esprit, c'est l'esprit agapé. L'agapé, c'est l'ensemble des esprits de l'amour qui coiffe tout l'ensemble de l'amour. Dans l'intérieur, c'est l'amour sacrificiel. L'amour qui nous conduit à donner notre vie, et c'est ce type d'amour que Jésus. Pour ne pas sortir de mon texte, j'y reviens. L'amour et la vérité caractérisent la présence de Dieu. Et l'esprit de Sion rassemble toutes les actes et les parties qui nous rattachent à l'Éternel. À Sion habite la présence du Dieu Tout-Puissant. Et donc, il n'y a rien sur terre qui peut être rattaché à Dieu sans que cette chose-là passe par Jésus le Christ, qui est le point d'ancrage. Il se manifeste par un esprit d'obéissance et de soumission. C'est l'esprit qui a caractérisé Jésus. L'esprit de Sion renvoie à l'esprit de l'adoration qui permet d'élever Dieu, d'élever le Christ, d'élever l'esprit du Seigneur et d'élever le Saint-Esprit. C'est un espace dans lequel nous pouvons développer le caractère de Christ. L'amour viscéral de la sainteté nous saisit. Et si nous sommes saisis par un amour viscéral de la sainteté, nous aurons en même temps la haine viscérale du péché. On ne peut pas faire les deux. Quand on aime la vérité, on haït le péché, haït le mensonge. Ce qui suppose que nous ne sommes pas amputés de notre capacité à nous indigner. Je m'explique. Face au péché, quelle que soit sa forme, il y a des gens qui sont accoutumés, ils ont dit que, oh, c'est pas grave, c'est comme ça. Et il y a des gens qui sont résignés. Lesquels? Ce sont qui cherchent à sortir du péché, mais comme ils ont échoué, ils en ont marre 1 fois, 2 fois, ils se laissent aller. Accoutumés, résignés. Et la dernière catégorie, ce sont ceux qui s'indignent. Ah, je ne veux pas être dans une telle situation. Le prix a été payé, il faut que j'en sorte. Mais il y en a peu. Quand on regarde le monde a perdu, les êtres humains ont perdu leur aptitude, leur capacité à s'indigner devant l'injustice. On ne s'indigne plus devant ce qui est mauvais. Qui ne dit mot consent? Combien de fois nous consentons à des choses qui peuvent révolter Dieu? Retrouvons cette capacité à nous indigner, c'est humain. C'est une alerte que Dieu a mise dans notre corps pour nous dire attention. Mais si ce chien de garde qui doit avertir notre conscience se tait, on se laisse assimiler et on se dénature. Dommage. Et si cette capacité n'est plus en nous, il est difficile que nous puissions évoluer dans le monde de Dieu. Car le monde de Dieu, c'est le monde des esprits. C'est spirituellement que Dieu nous révèle la pensée. Et c'est pour ce qu'il est indispensable d'avoir le Saint-Esprit. Pas seulement que pour parler en langue, parce que je connais des gens qui parlent en langue qui sont pires que tout. Être rempli de l'Esprit, c'est autre chose, sur lequel je suis en train de travailler en 7 points. C'est déjà aimer, développer le caractère de Christ. Déjà. Je ne nie pas qu'il n'y a pas de parler en langue. Mais ce n'est pas que le signe d'être rempli et d'être sauvé. Alors, si ce caractère de Christ est en nous, il nous détache du monde. Et il nous amène dans la présence progressive de Dieu. Et détacher du monde ne signifie pas quitter le lieu physique pour aller dans un monastère. Non. On est dans le monde. Mais Jésus a dit que nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, la force avec laquelle, la sagesse avec laquelle, l'inspiration avec laquelle nous sommes appelés à construire notre vie ne vient pas de la philosophie du monde, mais vient de la parole de Dieu. Nous pouvons être dans le monde, mais ne pas y participer, moralement, mentalement, spirituellement, voire même physiquement. Dieu nous demande de nous détacher de certaines choses, ou de nous détacher de certaines personnes. Car c'est les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Alors, si le Seigneur nous arrache à tout ça, c'est pourquoi ? Il n'est pas un médecin qui nous guérit pour nous laisser encore nous détruire à nouveau. Il est celui qui nous arrache pour nous conduire vers quelque chose de mieux. Perspective éternelle. Le Nouveau Testament en particulier parle du livre d'Apocalypse. Et Apocalypse décrit Babylone comme étant la grande prostituée. Et il lui annonce qu'elle va avoir une fin funeste. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tous les esprits impurs, un repère de mauvais esprits qui s'opposent à Christ, qui s'opposent à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit « Sortez du milieu d'eux, car le jugement de Babylone a déjà commencé. » Il nous a été exposé dans le livre de Genèse, livre sur lequel notre sœur Clément s'est attachée. Dans les développements, il y a quelque chose qui se voit, une seule phrase, mais parfois on n'entend pas très bien. Le monde dans lequel nous sommes, il est déjà jugé. Vous le savez ? Le monde est déjà jugé. Le monde vit sous la condamnation de Dieu. Jésus avait regardé le monde en train d'être détruit. Quand Dieu posait la question aux anges, qui enverrai-je ? Aucun ange n'était prêt. Quand Jésus a vu la fin du monde, il a vu comment les hommes sont détruits, il a vu l'enfer, les cris de chacun de tout ce monde en enfer, il a dit « Père, envoie-moi ». Toi, tu veux y aller ? Oui. Et comme il savait l'objectif qui était le sien, rien ne pourrait l'arrêter. Quel est notre objectif, nous ? Vivre sur la terre, payer nos factures, manger, c'est bon ? Je crois pas. Notre objectif, c'est le ciel. La rencontre va se faire avec Jésus-Christ à la montagne de Sion, dans Apocalypse chapitre 14. Le peuple de Dieu va se rejoindre avec son Seigneur. Voilà le nouveau monde que Dieu nous prépare. Et quand on a ça en vue, aucun lion ne peut nous arrêter. Ceux qui avaient été envoyés dans les arènes pour être mangés parce qu'ils étaient des chrétiens, ils n'avaient pas peur parce qu'ils savaient ce qui les attendait. Que le Seigneur nous aide. Sortez du milieu d'eux, en mentalité et en esprit. Ne dites pas oui ce que le monde dit que c'est oui. On applaudit le pire et on se tait devant ce qui est bon. On fait prospérer ce qui est mal, et ce qui doit être prospéré, le bien, on se tait. On préfère les ténèbres que la lumière dans notre monde. Les événements politiques qui se passent à l'heure actuelle, parce que sur la prédication ici, je ne peux pas vous le dire parce que le messager est transmis. Mais si nous pouvons avoir des réflexions de soirée ou d'un dimanche sur une thématique de ce genre, j'aimerais bien vous ouvrir les yeux. Moi, je vois des choses qui se combinent, qui sont à l'heure actuelle. Très dangereux. Mais quand nous ne sommes pas avertis, on peut se laisser piéger. Alors le danger, c'est quoi? Le plus grand danger, c'est l'écuménisme. Rapprochons-nous, mettons-nous en commun, mettons nos convictions, tout en conservant notre particularité. Même si les particularités nous séparent, on peut se mettre ensemble. Ça paraît séduisant, non? Quiconque va s'opposer à ça dit que tiens, lui, il est un séparateur, c'est un sectaire. On le traite de tous les noms. Jésus a été traité de secte. C'est parce qu'il ne veut pas faire cause commune avec le mal. Or, ces particularités dont il parle là, dans l'œcuménisme, touchent le fondement du christianisme. Si quelqu'un me dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? Dites-moi. Vous avez à voir avec lui? Ça ne vous engage que vous, mais moi non. Parce que c'est là où tout se construit. C'est la pierre de l'angle, Jésus. Si quelqu'un dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu et qu'il est qu'un simple prophète ou un grand humaniste et modéliste et que nous devons copier, alors là, je l'arrête. On n'a rien à commettre là. Fais ton chemin, moi je fais le mien. Et souvent, par excès d'affect ou d'une affection pervertie, on se dit que mais non, c'est pas bon ça. On peut marcher ensemble, il n'y a pas de souci. Ah bon? Mais c'est Jésus qui le dit, sortez du milieu d'eux. Qui a raison? C'est vous qui avez raison, c'est le Seigneur. Dieu ne nous sauvera qu'à sa condition, à lui, pas à notre condition. Jésus a dit que quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu de moi, Jésus. Et il vous en annoncera des choses à venir. Ainsi, la clé de la pensée du Père, c'est l'onction que nous avons reçue de la part de Dieu qui nous conduit dans la vérité de Christ. Nous ne pouvons pas comprendre autrement la parole du Seigneur sans cette clé qui est l'onction de la parole. Et quand on n'a pas cette onction, on fait des gymnastiques intellectuelles pour donner une interprétation à la parole de Dieu qui ne relève pas de l'Esprit du Seigneur. Et donc, il y a des divisions. Et pour essayer de corriger les angles, on dit que bah, unissez-nous, ce n'est pas un problème, on s'unit pour une cause comme ça. Voilà le danger. Voilà le danger. Alors je termine. Personne, porteur du salut, ne peut sombrer dans l'apostasie pour être demeuré éveillé. On n'est jamais trop éveillé. Personne, porteuse du salut, ne peut sombrer dans l'apostasie pour demeurer éveillé à la voix de Dieu ou pour avoir trop veillé sur ses voies. Car on ne peut pas prétendre connaître Dieu et son Fils, Jésus le Sauveur, et en même temps continuer à être indifférent à la voix de Dieu et continuer à lui désobéir, à vivre comme par le passé. Ce n'est pas possible. Car celui qui dit avoir connu le Père et qui ne garde pas ses commandements, la Bible dit qu'il est menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui croit que Dieu est le Père et que Jésus est le Sauveur, il doit marcher comme Jésus a marché. Car dans nos cœurs, une fois que nous aurons dans une telle situation, branchés à Christ, notre marche est progressive de gloire en gloire. Les zones d'ombre s'éclairent au fur et à mesure et nous sommes illuminés. Moi, j'ai constaté les gens qui sont autour de moi ces quelques jours-là, pour les avoir vus il y a 6 mois, et pour les avoir vus maintenant, je vois qu'il y a la lumière qui jaillit. Leurs yeux commencent à pétiller. Tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui a été détruit de mauvais, et il y a quelque chose de nouveau qui ressurgit. Et cette lumière, elle ne doit pas s'éteindre. Elle doit aller grandissant pour devenir comme celle de Jésus à la montagne de la Transfiguration. Quand il a pris Pierre, Jacques et Jean et les a montés à la montagne de la Transfiguration, Jésus était devenu subliminal. Voilà ce que vous allez devenir. L'objectif a été donné. C'est parce que la lumière va jaillir en nous. Peuple de Dieu, fille du Seigneur, l'épouse de Christ, où en sommes-nous? Le diable, il est maître dans l'art des apparences. C'est son arme favorite. Il va te peindre les apparences comme il faut, un bon vernis. Mais l'intérieur ne change pas. Par contre, Jésus, lui, il fait l'inverse. Il va commencer par l'intérieur avant de faire changer l'extérieur. Jésus commence la transformation. Il nous forme. Il nous informe pour nous transformer. Il nous informe par sa parole, il forme notre mentalité par son esprit et il nous transforme à son image. Voilà le programme. Que le Seigneur nous aide tous, y compris moi d'ailleurs, parce que la qualité de notre foi dépend de la qualité de votre foi également. Si le peuple de Dieu manifeste une foi vigoureuse, nous les bergers nous sommes portés vers le haut. On arrête de jouer la locomotive tout le temps, parce que c'est vous qui nous poussez. Oh que c'est merveilleux! La qualité de notre foi dépend de la foi de l'autre. Et nous devons mutuellement nous encourager dans le chemin de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Jésus a payé un grand prix. Ne vous laissez pas ravir ce prix que le Seigneur nous a donné. Nous fêtons la présence de Christ, mais souvenez-vous vers où nous allons. La Bible a dit, au vu de la gloire à venir, au vu de la joie que Jésus va éprouver, il n'a pas considéré comme étant un sujet d'obstacle toutes les souffrances qu'il a connues. Il a foncé. Et c'est là où nous devons y aller. Armez-vous de cette force et de cette patience. Nettoyez. Ajustez-vous. Ne vous laissez pas encombrer par les choses qui détournent notre cœur. Mais laissez-nous habiter par la pensée du Seigneur. Et nous allons arriver tous. Voilà notre souci. Dieu nous aime tous pour nous parler ainsi. Et le Seigneur nous parle. Obéissons-lui. Demandez-lui son aide. Et nous pouvons y arriver. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu perçois à travers ta parole nos zones d'ombre, des endroits de notre vie qui nécessitent d'être consolidés. Et souvent nous sommes champions à construire à la fois sur le rocher et en même temps une partie sur du sable. Ce n'est pas ce à quoi tu nous appelles. Tu veux poser le fondement sur un sol inébranlable. Comme il a été lu, Seigneur, dans le psaume chapitre 13, quand les fondements de la terre sont ébranlés, comme maintenant, le juste, que ferait-il? Ce n'est pas vers les montagnes de l'homme que nous allons courir, mais nous allons courir vers la montagne de la lumière, la montagne de Sion, qui est l'image de l'Église actuelle, qui confesse Jésus en esprit et en vérité, mais qui plus tard sera l'expression de la glorification ultime dans laquelle, Seigneur Dieu, tu nous mènes. Aide-nous maintenant, Seigneur. Nous et les nôtres. Parce que le salut que tu nous apportes n'est pas pour nous-mêmes, mais pour ceux de notre famille, pour nos enfants, pour nos conjoints, pour nos petits-enfants, et pour ceux qui sont tout autour de nous. Que ta lumière en nous continue à briller, et fais briller cette lumière avec éclat. Une lampe n'est pas allumée pour être mise sous un seau, mais une lampe est allumée pour être mise sur le boisseau ou sur la montagne, afin qu'elle témoigne de sa nature. Le diable s'emploie à dénaturer tout ce que tu as établi, à repousser les limites de l'ordre établi, à perturber tout ce que toi, Dieu, tu as mis dans l'ordre, en falsifiant les choses par le mensonge. Mais c'est contre tout cela que tu nous appelles à résister, mais par ta parole. Bénis chacun de mes bien-aimés ici présents. Donne-nous de réfléchir comme des saints à notre raison d'être, au but pour lequel tu nous as sauvés. Et tiens-nous par la main. Que ton nom soit béni, cher Seigneur, dans le nom de Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Amen.